France Musique. Musicopolis. Jour de l'Ascension, vers 1612, Venise. Le jour de l'Ascension est très particulier à Venise, depuis près de 500 ans. C'est le jour où le doge va monter sur le Bucentaure, un énorme bateau de cérémonie avec toute sa seigneurie, les sénateurs, le légat du pape et les ambassadeurs. Le Bucentaure va voguer de la lagune jusqu'à la mer, où le doge va jeter un anneau dans les flots en disant « Nous t'épousons, mère, en signe de véritable et perpétuelle domination ». Le bateau revient à quai et enfin peut commencer la fête de la Sensa. Comme toutes les fêtes vénitiennes, la Sensa, l'Ascension, est fastueuse. Tout concourt à donner de la République sérénissime une image de lustre et de magnificence. L'ordonnancement de la procession, les beaux habits et bien sûr la musique, qui est là, nous dit l'italianiste Marie Vialon, pour faire entendre à tous que l'harmonie et l'équilibre du gouvernement vénitien n'ont d'égal que la musique des anges. En tête de la procession, les porte-étendards, avec les bannières marquées du lion ailé de Saint-Marc. Puis les commandadori, huissiers et crieurs publics. Enfin les musiciens, puisque, selon Francesco Sansovino, un érudit qui a décrit Venise dans un guide publié en 1581, la douceur de la musique serait la véritable représentation du gouvernement parfait. La procession est terriblement longue. À défaut d'une grande avenue qui permettrait de défiler tout d'une traite, elle sinue en multiples méandres sur toute la surface de la place Saint-Marc. À la fin, on entre dans la basilique. Et c'est encore de la musique. Jean-Baptiste Duval, secrétaire de l'ambassadeur du roi de France, écrit en 1607 « Il s'y fit un concert des meilleurs musiciens qu'ils eussent, tant de voix que d'instruments ». Principalement de 6 petits jeux d'orgue, outre celui de l'église qui est fort bon, et de trombone ou sac-bout, hautbois, viol, violon, luth, cornets à bouquin, flûte douce et flageolet. La procession qui pénètre dans l'église San Marco permet de prendre connaissance de tout l'appareil politique et religieux de Venise avec toute sa hiérarchie. D'abord marchent les simples citoyens au service de la ville, puis le doge lui-même, avec les ambassadeurs de l'Empire et du Saint-Siège, enfin tout le gouvernement de la Sérénissime, avec conseil des 10, sénateurs, Carantis et autres sages et conseillers. Tous marchent par deux, dans le plus bel ordre imaginable. Sauf le doge, bien sûr, qui est unique. La musique qu'on entend lors des fêtes de Venise vers 1612 est due pour beaucoup à Giovanni Gabrielli. Il a publié tout un recueil de ses œuvres en 1597 sous le titre de Sacre Sinfonie, Symphonie sacrée. Des pièces pleines de magnificence, écrites pour des formations impressionnantes, de 6 à 16 parties, et avec aussi des pièces purement instrumentales. Depuis lors, il en a encore composé beaucoup d'autres, mais qui ne seront réunies en volume qu'après sa mort. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Giovanni Gabrielli, qui écrit beaucoup de la musique jouée à San Marco de Venise, n'est pas le maître de chapelle. Il est seulement, si l'on peut dire, le deuxième organiste de l'institution. Voici près de 30 ans qu'il a passé l'audition pour obtenir ce poste. Depuis, il l'a toujours conservé. Lors de cette audition, il était opposé à un certain Marc-Antonio Antonini, dont on ne sait rien. Ce qu'on sait, c'est que son oncle Andrea Gabrielli, étant alors premier organiste, il avait certainement chaudement recommandé son neveu au maître de chapelle Giuseppe Zarlino, qui, à son tour, en a parlé au procurateur. Les procurateurs ont procédé au vote et l'unanimité s'est faite sur le nom de Giovanni Gabrielli. Giovanni, la forme vénitienne du prénom Giovanni. Thank you. On ne sait pas grand-chose de la biographie de Giovanni Gabrielli, ni même quand et où il est né, sans doute à Venise, et sans doute vers 1554, puisqu'il est écrit dans les registres qu'il est mort à 58 ans en 1612. On ne sait pas quelle a été sa formation, si ce n'est que son oncle Andrea a lui-même eu beaucoup d'élèves. Andrea a quitté Venise pour Munich, alors que Giovanni était encore petit garçon, mais il est revenu en 1566, alors que son neveu devait avoir une douzaine d'années. C'est à ce moment-là qu'il a dû s'occuper de son apprentissage. À Munich, Andrea Gabrielli a bien sûr rencontré Roland de Lassus, le maître de chapelle d'Albert V de Bavière. Ce prince mène un train de vie fastueux. Il aime les arts et il désire s'entourer des meilleurs musiciens, peintres ou graveurs. Lassus fait de fréquents voyages en Italie pour recruter chanteurs et instrumentistes pour la chapelle. C'est sans doute à l'une de ces occasions qu'Andrea Gabrielli a été engagé. Le jeune musicien va voyager dans la suite d'Albert V, faire la connaissance de nombreux musiciens et tout simplement voir du pays. La fréquentation de Lassus est en soi un voyage, puisque celui-ci a traversé toute l'Europe et connu toutes les musiques dans toutes les langues et tous les styles de son époque.
Une puce j'ai dedans l'oreille, hélas, qui de nuit et de jour me frétille et me mord et me fait devenir fou. Nul remède ni puits dans l'île, je cours de ça, je cours de là, ôte-la-moi, retire-la-moi, je t'apprie. Oh, toute belle, secours-moi, oh, toute belle, secours-moi. Quand mes yeux, je pense, livreront sommeil, elle vient me piquer, me démange, me poing et me garde de dormir. Nul remède ne puis dans l'île, je cours de ça, je cours de là, ôte-la-moi, retire-la-moi, je t'en prie. Oh, toute belle, secours-moi, oh, toute belle, secours-moi.
L'oncle Andrea Gabrielli a bien profité de son séjour à Munich. Et en rentrant à Venise, il est engagé à San Marco, où il peut partager avec les musiciens locaux tout ce qu'il a appris à l'étranger. Il enseigne l'écriture musicale la plus complexe et la plus savante, ne négligeant rien du contrepoint et de la fugue. Un an après la mort d'Andrea, son neveu Giovanni écrira ceci. « S'il n'avait pas été mon oncle, j'oserais dire, sans crainte d'être accusé de partialité, que, de même qu'il y a peu de peintres et de sculpteurs illustres de par le monde, de même, il y a vraiment peu de compositeurs et d'organistes aussi excellents que lui. Mais puisque par mon sang, je suis à peine moins que son fils, il ne me convient pas de dire librement ce que l'affection, guidée par la vérité, voudrait me suggérer. » est probable qu'Andrea Gabrielli, en bon professeur de son neveu Giovanni, l'a convaincu d'aller à son tour voyager de par le monde. Et tiens, pourquoi pas à Munich, profiter de la chapelle du prince Albert et de l'enseignement de l'ami Roland de Lassus. Giovanni va y passer quelques années, entre 1575 et 1580, avant de revenir, plein d'usage et raison, vivre à Venise le reste de son âge. Bientôt engagé comme organiste, suite à l'audition dont il était question plus haut, il fera toute sa carrière à San Marco. Tout ce que nous savons de Giovanni Gabrielli une fois qu'il est en poste à San Marco, c'est qu'il va publier des volumes de musique régulièrement chez les éditeurs vénitiens. En dehors de quelques œuvres de jeunesse qui paraissent dans des anthologies dominées par d'autres compositeurs, il va se consacrer exclusivement à la musique religieuse, aussi bien vocale qu'instrumentale. La plupart de ses motets peuvent parfaitement s'intégrer à la liturgie des nombreuses fêtes célébrées à Saint-Marc ou dans d'autres églises de Venise, qui ont chacune des fêtes particulières. D'ailleurs, sans doute pour gagner un peu plus d'argent, alors que le salaire d'organiste de San Marco est peu élevé, il est employé aussi à San Rocco, comme organiste et sans nul doute aussi comme compositeur. Pour mettre en valeur la magnificence de San Marco et de la République sérénissime de Venise, Giovanni Gabrielli va composer des pièces pour plusieurs chœurs, c'est-à-dire plusieurs ensembles comprenant voix et instruments, qui seront répartis dans l'église de manière à produire des effets qu'on dirait aujourd'hui de spatialisation. ce que notre stéréo peine à restituer. Mais imaginez-vous un instant au milieu de la basilique. Chanteurs et instrumentistes sont répartis en 7 chœurs, leurs habits sont blancs ou rouges, et vous vous délectez de la musique de celui qu'on appelle alors le parangon de toute musique parfaite et le joyau de l'Italie. Magnificat à 33 de Giovanni Gabrielli avec l'ensemble vocal Melody Cantores, l'ensemble instrumental La Pifaresca sous la direction d'Elena Sartori. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Bernard Laniel pour le mixage et Max Dozolme et Valentin Carpentier pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.